Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Calade. Si vous nous rejoignez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le mercredi 16 novembre 2022, le ciel du Beaujolais est légèrement couvert, mais on profite quand même un peu du soleil et des températures qui se situent autour de 15 degrés. Dans notre émission, on parlera de fleurs sauvages avec Gabriel Caramana. On va retrouver également le prof Patrick avec le second épisode d'une série sur les régimes libertariens autoritaires. Avant tout ça, on va passer un moment avec notre invité du jour. Il s'agit de Thibaut Emelin de l'association Solidarité Femmes Beaujolais. On va parler des activités de cette association créée il y a un peu plus de 2 ans. Et puis on va forcément parler des violences faites aux femmes. Le 25 novembre prochain, ce sera justement la journée mondiale de lutte contre ces violences faites aux femmes. À cette occasion, l'association a préparé pas mal de choses pour sensibiliser à leur cause. On commence tout d'abord en musique, si vous le voulez bien. Voici Tempête de Angèle. On est ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
Elle ouvre les yeux et regarde à terre. Peureuse, elle regarde à terre. Elle lui promet que c'était la dernière. Et elle ramasse ses affaires pour une envie si humaine d'avoir voulu être libre. Et c'était pas la première. La première crise, si sur eux tu ne lèves jamais la main, tu seras un très bon père et meilleur sera demain. Et de mieux en mieux, évidemment que ce sera de mieux en mieux. Un jour ce sera joyeux, mais en attendant de subir le feu.
Espérer qu'on n'est pas chanté de requiem. Angèle sur Calade avec Tempête.
Ensemble sur Calade.
Allez, tout de suite, on est avec Thibaut Emelin de l'association Solidarité Femmes Beaujolais. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette association, on la connaît bien. On la suit depuis quelques années déjà, depuis sa création en 2020.
En août 2020, la création. Le 27, exactement.
Le sujet, il est un petit peu dans le nom, Solidarité Femmes Beaujolais. Vos missions, c'est lutter contre les violences faites aux femmes. Si je résume comme ça, ça marche?
Exactement, c'est écrit comme ça dans nos statuts. Donc, on a pour mission de lutter contre les violences faites aux femmes en milieu rural et donc du coup de promouvoir aussi l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ouais.
C'est également dans nos statuts, mais c'est surtout parce que les deux problématiques sont liées, les inégalités entre les femmes et les hommes et les violences faites aux femmes.
Il y a le premier entraîne l'autre, c'est ça? C'est l'inégalité entraîne la violence ou...
Voilà, aujourd'hui il est admis de manière très très officielle. Il y a des textes qui ont été des conventions qui ont été signées par l'État français qui attestent de ça, qui dit qu'effectivement les violences faites aux femmes prennent leur racine dans les années de société patriarcale qui précèdent depuis, qui sont présentes depuis des dizaines, des centaines d'années.
Ouais.
Donc ça aujourd'hui c'est un fait qui est admis. Et le fait de pouvoir venir réduire ces inégalités, de fait, ça va entraîner une réduction des violences spécifiquement faites aux femmes.
Les violences, justement, ça englobe quoi? C'est assez large, j'imagine, ce qu'on met derrière.
Oui, alors nous, ce qu'on entend par violences faites aux femmes, on appelle ça des violences sexistes, c'est-à-dire des violences qui sont faites sur les femmes parce qu'elles sont des femmes.
Okay.
Donc ça va vraiment englober tout ce qui est notamment violences sexuelles, les violences conjugales, qui sont une grosse partie de notre travail, mais aussi le harcèlement au bureau, le harcèlement de rue. Il y a du harcèlement aussi à l'école, où on voit beaucoup de choses, de mots qui sont dits sur le genre de la personne, sur son sexe. Et c'est vraiment ça qui vient définir pour nous les violences sexistes et les violences faites aux femmes.
Dès la cour d'école, ça existe, ça?
Oui. Bon, après, c'est pas un secret. Ça va pas non plus en s'arrangeant. Alors, je suis pas sûr que ça se dégrade. Hein, ouais. Mais dans tous les cas, on est de plus en plus, nous, sollicités par des structures encadrant des adolescents, que ce soit des centres sociaux, des écoles, pour pouvoir intervenir auprès des jeunes, surtout sur la question du vivre ensemble.
Ouais.
La question du vivre ensemble, de l'égalité entre les filles et les garçons, venir déconstruire les stéréotypes de genre, qui sont aussi la source de beaucoup d'inégalités et de beaucoup de violences, pas que conjugales, de violences entre les personnes, que ce soit dans la cour de l'école, dans les familles, dans un peu toutes les sphères de la société.
Il y a pas mal de choses, il y a du travail, j'ai l'impression, de choses à déconstruire, de stéréotypes qui sont ancrés dans la tête.
Oui, il y a du travail. Après, encore une fois, de partout où nous on porte ce discours, on va à la rencontre des gens et quand on explique ce qu'on fait et comment on le fait, les appréhensions sont vite levées et aujourd'hui on rencontre peu de monde en fait qui sont contre ça.
Ouais,
j'ai pas précisé, mais effectivement nous notre association Solidarité Femmes Beaujolais, on a vocation à intervenir d'abord en milieu rural, donc sur toute la partie rurale du Beaujolais, parce que c'est effectivement un endroit où il y a peu d'actions de prévention, où il y a peu d'actions tout court d'ailleurs, pour venir lutter contre ces problématiques-là. C'est pas parce que à la campagne on est plus rustre ou arriéré ou quoi, c'est juste qu'il y a, historiquement il n'y avait pas de présence d'associations comme ça. Et en fait on voit bien quand on arrive à accéder aux personnes, à leur parler calmement, gentiment, dans la bienveillance, eh ben, on est entendu et le dialogue se crée assez facilement. Encore faut-il avoir l'occasion de pouvoir effectivement en parler.
Est-ce que là, le dernier quinquennat du président, c'était la cause des femmes la priorité? On a eu pas mal de mouvements, en tout cas j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus de la cause des femmes. Mm-hmm. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça change? Est-ce qu'on voit une réelle évolution positive?
Alors de fait, c'est effectivement intéressant que les politiques puissent s'en emparer. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'en plus c'est une cause qui est vraiment, j'allais dire, transpartisane, parce que les violences faites aux femmes, on en parle de plus en plus depuis 2016, on en parlait déjà un peu avant. Donc les gouvernements successifs depuis Sarkozy, Hollande et aujourd'hui avec le quinquennat de Macron, parle de ce sujet. Après, comme d'habitude, on a toujours besoin de davantage de moyens,
davantage de
visibilité et du concret pour les associations de terrain qui sont du coup vraiment au cœur des dispositifs à la fois de protection mais aussi de prévention.
Ouais.
Donc effectivement, il y a du mieux dans le sens où on en parle. Après, on n'a jamais assez de moyens pour vraiment être... On voudrait être toujours plus efficace, en fait. Donc,
moi, mon ressenti, c'est qu'il y a plus de paroles que d'actions.
oui, après, déjà, à notre niveau, effectivement, la frontière, elle est faible entre la parole et l'action. Mais effectivement, nous, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de pouvoir pérenniser nos actions. Et donc, du coup, il faut qu'effectivement, les paroles deviennent concrètes. Et de manière très concrète, d'aider les associations de terrain, c'est avant tout de pouvoir les soutenir financièrement.
Ouais.
Mais ça, c'est un gros travail qu'on fait avec les élus locaux,
encore
une fois, et de tous bords politiques. Et encore une fois, quand on arrive à leur expliquer notre projet, à être en lien avec eux et aussi être à l'écoute de leurs attentes et de leurs besoins, on voit que les choses arrivent à... Le message arrive à passer, en fait. Donc effectivement, après, ça nécessite un gros, gros travail de communication.
Ouais.
Donc ça nous prend aussi beaucoup d'énergie. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut le mener, il faut vraiment pas lâcher. Et c'est vrai qu'après, on est aidés, nous, dans nos missions, par les réseaux sociaux, par les médias qui, effectivement, font, je pense, leur part à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'ils en parlent, effectivement, de façon... massive, alors pas toujours dans le bon sens, mais on maîtrise pas tout, au moins on en parle. Et c'est vrai que la prise de conscience générale, globale de la société, je pense qu'elle est là. Après, beaucoup de monde manque encore de moyens concrets d'en parler. C'est-à-dire que c'est une problématique qu'on commence à avoir en tête, mais quand on l'a sous les yeux, on s'en rend pas forcément compte. Donc ça reste encore, en quelque sorte, un tabou.
Ouais.
Mais un tabou plus personnel que sociétal.
C'est ça, c'est parce que c'est aussi des violences assez invisibles en général.
Ah oui, de toute façon, la majorité des violences sexistes et sexuelles sont des violences qui sont extrêmement invisibilisées.
Ouais.
Que ce soit donc tout d'abord par les agresseurs, mais aussi par les victimes qui, effectivement, ont encore beaucoup de mal à en parler, à dénoncer les faits.
Ouais.
On a l'impression que ça va de mieux en mieux, mais aujourd'hui encore, c'est une femme sur trois uniquement qui va engager des démarches administratives ou juridiques quand elles sont face à ces situations de violence.
Mmh.
Donc c'est encore très peu. Et c'est une femme sur trois qui commence des actions, qui des fois n'arrive pas au bout. On le sait malheureusement, souvent faute de preuves, faute de suivi au niveau judiciaire. Enfin voilà, après, il y a encore beaucoup d'embûches qui se posent après, une fois que la parole s'est libérée.
Ouais. Je reste encore sur ce sujet-là avant de parler de l'association en particulier. Le dernier hashtag que j'ai vu, il y en a eu plein sur la cause des femmes, c'est « on vous croit », je crois, le dernier dont j'ai entendu parler. Ça veut dire quoi, « on vous croit » ?
Alors, je ne vais pas être le mieux placé pour répondre, je ne suis pas très réseau social. Mais effectivement, c'est un mot-clé qui me semble intéressant parce que c'est effectivement la chose à dire, la chose que ce sont les termes que la société doit porter quand on est face à des personnes qui dénoncent ce genre de violence. C'est « on vous croit ». Créer un climat de confiance générale qui va vraiment favoriser l'émergence de la parole de ceux et de celles qui subissent des violences. Donc effectivement, ça me semble être un terme en tout cas assez important qui du coup arrive après effectivement les autres. Sûrement que ça arrive maintenant au bon moment, mais nous, c'est effectivement quelque chose qui nous tient à cœur dans l'association. Et la façon dont on reçoit les femmes qu'on accompagne, c'est effectivement, on a pour principe de les écouter sans jamais venir émettre des doutes ou des questionnements, en tout cas par rapport à ce qu'elles ont vécu. Alors après, ça n'empêche pas de revenir. Il y a souvent beaucoup de paradoxes dans ces situations-là, mais le premier accueil, c'est vraiment de leur dire « on vous croit » et au-delà de « on vous croit », c'est « merci de nous faire confiance et de venir déposer ce que vous vivez ».
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment important, effectivement.
Alors justement, l'association Solidarité Femmes Beaujolais, aujourd'hui, il y a un chiffre qui dépasse la centaine d'adhérents, c'est ça
Oui, tout à fait. On est à 112 adhérents. Ouais. Donc là, on a clôturé les adhésions 2022. Donc on est à 112 adhésions, dont une quarantaine de bénévoles. Ouais. Donc on est assez content de cette situation. Ça montre aussi qu'il y a un certain engouement, en tout cas une certaine dynamique qu'on va essayer de maintenir en 2023, mais qui montre que c'est vraiment... Enfin, notre association... Alors effectivement, il y a un côté... accompagnement professionnel, travailleurs sociaux, etc. Mais il y a aussi tout un côté où l'association elle est portée par des habitantes et des habitants du territoire. Et c'est quelque chose qui nous semble vraiment primordial de maintenir. Ouais. Donc effectivement, c'est une dimension qui est assez importante. Et nous, aujourd'hui, on est très contents de ça.
Deux salariés aujourd'hui, je crois ?
Alors effectivement, on est deux salariés. Il y a un recrutement en cours, ce qui nous permet en fait de venir professionnaliser les deux pôles qu'on anime. Donc le pôle accompagnement, qui est vraiment là pour recevoir les femmes et les enfants victimes de violences, les écouter, les accompagner au quotidien dans leur démarche, leur proposer du soutien, de l'écoute. Et après, en fonction de ce qu'elles ont envie de faire, pouvoir lever tous les problématiques et tous les freins qui les empêchent vraiment d'avancer. L'idée, c'est vraiment leur faire entamer un parcours de sortie des violences. Et du coup, on a un deuxième pôle prévention, voilà, qui est vraiment un aspect qui nous tenait à cœur dès la création de l'association, et qui aujourd'hui, on a l'opportunité, effectivement, grâce à des financements de partenaires, de pouvoir professionnaliser, pour pouvoir proposer, effectivement, des interventions, j'allais dire, de façon beaucoup plus large. Voilà, notre ambition, c'est vraiment de pouvoir toucher...
Un maximum de personnes.
Donc là, on va commencer effectivement avec les demandes qu'on a, donc avec des interventions auprès des jeunes, des ados et des jeunes adultes.
Ouais.
Voilà, mais après, effectivement, ça va nous permettre de développer encore plus la sensibilisation, augmenter le repérage des violences. Et en fait, ça va venir vraiment... les deux actions, en tout cas, se nourrissent l'une de l'autre. Et c'est vraiment important pour nous de pouvoir professionnaliser ça, sans oublier, encore une fois, tout le côté vie associative et bénévole qu'on a dans l'association et qu'on veut vraiment maintenir.
Il y a des permanences, je crois, qui sont organisées. C'est-à-dire que chaque semaine, il y a des rendez-vous qui sont donnés pour vous rencontrer, pour venir parler avec vous, se renseigner.
Voilà, alors effectivement, les permanences d'accueil, d'écoute et d'orientation donc sont animées par les professionnels, par le professionnel du pôle accompagnement. Et donc, on intervient, je ne vais pas dire de bêtises, mais dans une douzaine de communes aujourd'hui sur le Beaujolais rural. Donc, ça veut dire qu'on est en capacité de recevoir des femmes et des enfants victimes de violences dans 12 communes différentes du Beaujolais, dans des locaux qui sont adaptés, qui sont anonymisés, qui sont sécurisés. Et voilà, ce qui nous permet vraiment d'aller au plus près, en fait, des demandes. Mais effectivement, on couvre un territoire qui est assez large, puisque, encore une fois, nos points de permanence vont de Amplepuis, Ternant, jusqu'à Montsol ou Juliena. Ouais. Voilà, on a pu rencontrer des dames de là-bas. Parce que voilà, on sait que c'est des villages où c'est extrêmement compliqué de se déplacer, d'autant plus quand on vit avec quelqu'un, un conjoint qui exerce des violences. On sait que la proximité, c'est vraiment un enjeu important. Donc, après, je vous invite vraiment à retrouver toutes les informations sur notre site internet où il y a tous les points de permanence, les heures où on est présent. Et après, bien sûr, l'idéal, c'est effectivement de prendre contact avec nous sur la permanence téléphonique, parce qu'il est tout à fait possible de convenir de rendez-vous en dehors de ces heures-là.
Enfin,
voilà, on essaie vraiment d'être très, très adaptable.
Ouais.
Très flexible pour pouvoir répondre à un maximum de demandes.
Il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre n'importe quand, c'est ça ?
Tout à fait, alors n'importe quand.
Peut-être pas donc, à 3h du matin, mais...
Voilà, le numéro, je pense que vous le retrouvez sur la page d'émission. Sur notre site internet, c'est le 07 88 14 98 85.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est vraiment le numéro d'accueil qu'on peut appeler, qu'on soit victime, témoin ou... Enfin, témoin proche ou professionnel.
D'accord. Et vous organisez, parce que la semaine prochaine, c'est le 25 novembre ?
C'est le 25 novembre.
Que je ne me trompe pas, journée des droits des femmes ?
Non, alors, dommage, une chance sur deux. Non, le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Ok, le 8 mars, c'est la journée
internationale pour le droit des femmes, tout à fait.
Ok, donc là, c'est la journée contre la violence, le 25 novembre. Qu'est-ce que vous organisez autour de cette journée ?
Alors, on organise plusieurs petits événements, effectivement, pour animer le territoire. La première des choses, c'est qu'on a recréé, on l'avait déjà fait l'année dernière, mais on a créé une équipe pour le marathon du Beaujolais. Donc, ouais. Avec aujourd'hui une trentaine d'inscrits, donc qui sont pour la plupart des adhérents, des adhérentes ou des sympathisants.
Okay.
Et donc du coup, l'idée, c'est de venir courir en équipe, à la fois pour pouvoir se rencontrer, passer un bon moment ensemble. Et chaque membre de l'équipe a un dossard reconnaissable, hein, un dossard qu'on a...
Aux couleurs de l'association.
Rose fluo, mais c'est surtout, voilà, il y a les informations dessus, et l'idée, c'est vraiment de faire de la prévention, de montrer qu'on est présent, et ouais. de montrer surtout qu'en fait, ces problématiques existent, et que c'est pas un problème d'en parler, ou de dire qu'on veut se battre comme ça, contre ça.
Ouais.
C'est vraiment ça qui est important, et donc du coup,
voilà,
on va... Pardon ?
On peut en être fier au contraire de se battre contre les...
Mais on sait que c'est un sujet qui est difficile à porter, à tenir. Donc le fait d'être dans une équipe, d'être dans un groupe, ça permet aussi aux gens qui sont dans l'association, des bénévoles et des adhérents, ça leur permet de se sentir appartenir à un collectif, et ça aide à porter un message.
Donc vous avez réussi à rassembler quand même 30 motivés. Ils font pas l'épreuve du marathon quand même.
Alors, que je dise pas de bêtises, il me semble qu'on aura deux ou trois marathoniens.
D'accord.
Voilà.
Chapeau.
Comme l'année dernière, s'ils arrivent au bout. mais après, a priori, on a des inscrits dans chaque catégorie, donc que ce soit pour le Family Marathon, je n'ai plus en tête, mais le 7 km.
Sur chaque course.
Et le semi-marathon, on a sur chaque course quelques inscrits. Voilà, les inscriptions se clôturent bientôt, mais c'est encore possible de nous rejoindre. Hein, donc pour ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà.
Très bien. Et puis les autres événements, c'est ce fameux bus du ruban blanc. Qu'est-ce que c'est ?
Voilà, alors ça, c'est un événement collectif qu'on a mis en place avec notamment la Croix-Rouge française, donc l'antenne de Villefranche, et avec la CAF du Rhône. Voilà, on s'est retrouvés entre partenaires pour essayer de mener des actions de prévention sur le Haut-Beaujolais notamment. Voilà, donc on a réuni, grâce à eux, on a réuni plusieurs autres structures, associations, partenaires, et on a effectivement construit une intervention. Alors on a appelé ça le bus du ruban blanc parce que on va pouvoir intervenir sur deux marchés du Beaujolais, donc à Beaujeu le 23 novembre et à Belleville le 26 novembre, avec le camion de l'UDAF. Et du coup, il y aura des professionnels de différentes structures qui seront présents avec ce camion et qui vont venir échanger avec les habitants, les habitantes sur la question des violences faites aux femmes. Donc voilà, on a réfléchi, on a créé une exposition avec cinq grands panneaux qui devraient être bien visibles et qui vont permettre de pouvoir échanger avec les gens. On va pouvoir projeter des courts-métrages. Voilà, ça va permettre d'avoir des échanges interprofessionnels. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a tout un panel de partenaires sur le territoire du Haut-Beaujolais qui est présent et qui peut être sollicité quand on est face à des violences.
D'accord.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas seul. Il y a beaucoup de professionnels qui aujourd'hui sont formés à ça et sont en capacité de pouvoir intervenir à un moment donné ou aider quand on est face à une situation de violence. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de montrer qu'il y a une cohésion des partenaires du territoire autour de ces problématiques-là spécifiques.
Et qu'il y a des solutions, et que si on est victime ou témoin, on n'est pas seul.
Exactement.
Et on
exactement.
Peut s'en sortir.
Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à venir à notre rencontre à ce moment-là. Et on a une dernière petite date, donc le jour du 25 novembre, où effectivement, à partir de midi jusqu'à 17h, on ouvre, entre guillemets, notre local, donc à Lamure-sur-Azergue, hein, au 200 rue des Écoles. Voilà, et c'est l'occasion pour celles et ceux qui veulent venir nous rencontrer, qui sont curieux, et ben de franchir la porte et de pouvoir effectivement rencontrer des membres de l'équipe, du CA ou des bénévoles, et de pouvoir échanger avec nous autour d'un café dans un moment vraiment convivial et détendu. Malgré le thème.
Parfait, merci beaucoup. Je rappelle, on retrouve toutes ces infos sur votre site internet Solidarité Femmes Beaujolais.
C'est ça, avec un petit tiret entre chaque tiret du 6 entre chaque mot.
.fr
.fr, tout à fait.
.com, .fr. Parfait. Eh ben, merci beaucoup encore une fois.
Eh ben, merci à vous.
Ensemble sur Calade.
Allez, on écoute Clara Luciani, voici Cœur.
purges tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. L'amour. Chaque fois qu'on la frappe, il y pousse une violette. On te fait du mal. Je veux pas qu'on te fasse du mal. L'amour est cogne, que le cœur ne laisse jamais personne. De faire croire le contraire, l'amour ne cogne que le cœur. L'amour ne cogne que le cœur. L'amour.
Nous chanter Clara Luciani sur Calade.
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région. Apprenez à les reconnaître et à les cuisiner avec Gabrielle Caramana, ethnobotaniste et fondatrice de l'association amplepuisienne Ampliflore. Tout de suite, découverte sauvage au fil des saisons.
Bonjour, c'est la sauge des prés aujourd'hui qui fera l'objet de ma chronique. Elle fleurit du printemps à l'été, mais après la douceur de ce début d'automne, elle refleurit en ce moment. On la surnomme aussi sauge commune. Son nom scientifique est Salvia pratensis. Salvia vient du latin salvare, qui signifie sauver, donc la plante qui sauve. Et pratensis, dérivé aussi du latin, pour dire qu'elle pousse dans les prés. La sauge des prés est classée dans la famille des Lamiacées, autrefois nommée Labiées, grande famille naturelle qui regroupe environ 6700 espèces dans le monde. De nombreuses plantes aromatiques utilisées dans notre cuisine traditionnelle font partie des Lamiacées. En voici quelques exemples connus. Les menthes, romarin, serpolet ou encore les basiliques. La sauge des prés, que l'on retrouve partout en France, est une plante vivace de 30 à 80 cm de hauteur, à odeur aromatique. Sa tige carrée est peu ramifiée. Elle porte de grandes feuilles, ovales, velues et légèrement rugueuses, d'apparence gaufrée et aux bords crénelés. La plupart des feuilles sont à la base de la plante. Elles ont un pétiole et les feuilles supérieures n'en ont pas. Le mot pétiole correspond à la partie de la feuille qui ressemble à une tige. Ces grandes fleurs d'un beau bleu sont groupées en grappes allongées. Elles sont, elles aussi, velues et visqueuses au toucher. Vous pourrez les observer et les admirer sur la photo du podcast. Le biotope naturel de la sauge des prés se trouve dans les pelouses et prairies de montagne, les prairies des vallées alluviales, des plateaux calcaires et basaltiques. On la retrouve aussi dans les prairies agricoles, les bords de routes et de chemins. Vous pourrez l'observer en ce moment dans les bandes de prairies fleuries semées aux abords du lac des Sapins à Cublize et sans doute en bien d'autres lieux du Beaujolais. Pour le côté médicinal, la sauge officinale que l'on plante dans nos jardins est originaire du pourtour méditerranéen. La sauge des prés était donc la sauge entre guillemets officinale en notre climat plus tempéré et ses propriétés sont semblables à celles du sud. C'est aussi une plante aux propriétés digestives et antispasmodiques, mais avec une action moins forte que la sauge officinale. Elle facilite la digestion des graisses. la plante entière de la sauge des prés est dite hormone-like, c'est-à-dire que ses huiles essentielles contiennent des œstrogènes d'origine végétale qui ressemblent à nos hormones. Elles stimulent donc les sécrétions hormonales. Avant l'apparition des aérosols contre l'asthme, les asthmatiques la fumaient en raison de ses vertus antispasmodiques et sédatives. Il est conseillé d'utiliser la plante sous forme séchée afin d'éviter tout risque avec une molécule neurotoxique nommée thuyone. D'autre part, fumer la plante fait entrer des composés comme les huiles essentielles qui ont une action puissante sur l'organisme à faible dose. Il est donc conseillé d'être vigilant sur ce type d'utilisation et d'en référer à votre médecin traitant ou votre thérapeute compétent. En cuisine, la partie aérienne de la plante est aromatique et condimentaire. Elle peut aromatiser la bière et le vin. Voici une petite idée culinaire très simple et gourmande pour découvrir sa saveur. Cueillir 4 feuilles de sauge des prés par convive, les laver et sécher. Préparer une pâte à frire et un bain d'huile à friture. Tremper chaque feuille dans la pâte et plongez-les dans l'huile chaude. Retirez dès que les beignets prennent une couleur blonde et les laissez égoutter avant de déguster chaud ou tiède avec un filet de jus de citron. Une dernière info, cette espèce a été sélectionnée en horticulture pour créer une plante ornementale à très grandes fleurs, vendue comme vivace ou en bouquet, sous le nom de Salvia pratensis, variété Hématodes. Voilà, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite de bonnes cueillettes.
C'était Découverte sauvage au fil des saisons, avec Ampliflore, pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région.
Je ne comprends pas.
Je vais vous l'expliquer en une minute au tableau noir.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur?
Son vrai nom, je ne le connais pas, mais par ici, on le connaît sous le nom de...
Professeur?
Ensemble sur Calade, le prof.
Alors attention, hein. Pas docteur, hein. Professeur.
Monsieur le professeur.
C'était un vieux jingle, ça, qu'on a ressorti des tiroirs que j'avais oublié pour la rubrique du prof Patrick. Bonjour, prof Patrick.
Salut à tous.
Ça va bien, en forme?
Ça va bien, pas de problème.
Bon, on a commencé la semaine dernière une série sur les régimes. Alors attention, est-ce que je vais réussir à le dire? Libertarien autoritaire.
Sur le régime libertarien autoritaire, du moins, ça va être notre destination.
Okay.
J'ai dit qu'on allait faire une série de 3 chroniques sur les régimes politiques d'accumulation, c'est-à-dire les structures politiques mises en place dans les sociétés pour permettre au capitalisme de fonctionner, un capitalisme qui peut se transformer au fil des années. On a vu la semaine dernière que le premier régime politique d'accumulation de l'ère moderne, c'était le régime libéral entre le 19e siècle et la Deuxième Guerre mondiale. On avait vu que ce régime libéral a été remplacé après la Deuxième Guerre mondiale par le régime fordiste, en gros, qui est fondé sur une sorte d'alliance entre les salariés qui consomment et les directions d'entreprises qui leur fournissent suffisamment de revenus pour que les salariés puissent consommer les produits que les entreprises leur vendent. Le tout chapeauté par un État qui est un État-providence qui œuvre à réduire la pauvreté et les inégalités. Ça, c'était le régime fordiste qui a duré jusqu'à la fin des années 70. Ce régime est entré en crise dans les années 70 et a donc été remplacé par le régime politique d'accumulation néolibéral, le néolibéralisme, au début des années 80. Ce régime néolibéral a dominé pendant 40 ans et commence, depuis quelques années, à être remis en cause par le régime politique d'accumulation libertarien autoritaire.
D'accord.
Mais n'allons pas trop vite en besogne, Mathieu.
Ouais.
Je vais d'abord revenir sur le régime néolibéral, qui a été quand même notre quotidien ces 40 dernières années, pour redonner un peu de détails sur en quoi ça consiste. Si tu te rappelles, mais je pense que tu te rappelles pas, Mathieu, j'ai fait une chronique en décembre 2020, ça commence à dater un peu, dont le sujet était Covid et libertés publiques, et dans lequel j'avais déjà défini les origines intellectuelles du néolibéralisme. Alors je vais un petit peu rappeler ça. J'avais évoqué dans cette chronique l'américain Walter Lippmann, qui dans les années 20 et 30 a travaillé à définir le néolibéralisme comme, je l'explique ça, comme le travail que l'État doit mener par le haut pour forcer les populations à s'adapter à une économie de marché.
D'accord.
Et à une économie de marché dont la vocation est de s'étendre à tous les aspects de la vie humaine, la marchandisation du monde. L'idée, c'est qu'en fait, on utilise l'État pour vraiment forcer cette transformation. Avec un système démocratique, un régime politique, système démocratique, qui évolue vers une démocratie des experts, confiant le pouvoir à des experts. On avait cité aussi dans cette chronique un philosophe allemand, Carl Schmitt, connu historiquement parce que c'est lui qui a créé le système juridique des nazis dans les années 30. Eh bien, Carl Schmitt, il avait fondé une notion, la notion d'état fort. Un état fort, pour Carl Schmitt, c'était un état qui impose la bonne direction et qui combat les menaces de l'état-providence ou des alternatives socialistes. On avait cité aussi comme origine intellectuelle du néolibéralisme les économistes Friedrich Hayek et Milton Friedman.
D'accord.
Et on avait cité aussi l'école économique de Chicago, qui est l'école de Milton Friedman, qui avait conseillé Pinochet dans la relance économique après qu'il ait fait son coup d'état au Chili, et qui a conseillé également Boris Eltsine après la chute de l'URSS.
Il y a du beau monde quand même.
Exactement. Tout ça, c'est les bases intellectuelles du néolibéralisme. On avait vu, et ça c'est très important, que dans la philosophie néolibérale, la liberté des marchés a la priorité sur les libertés démocratiques. J'avais cité Margaret Thatcher et Frédéric Hayek qui disaient ça.
Ouais.
S'il faut choisir entre les deux, il faut choisir la liberté des marchés, pas la liberté démocratique.
D'accord.
On va aller un petit peu plus loin dans la description de ce régime néolibéral, Mathieu.
Ouais.
D'abord, il faut savoir que c'est l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan aux États-Unis en 1980, juste après l'arrivée de Margaret Thatcher au Royaume-Uni en 1979, qui a déclenché cette révolution néolibérale. Il s'est agi dès lors dans ces deux pays, puis par contagion dans quasiment tous les pays développés, de mettre en place des politiques résolues de recul de l'intervention de l'État, dans l'économie, hein, bien sûr, faire reculer l'État-providence. Voilà. À coup de privatisation, à coup de déréglementation et à coup d'accélération des mesures en faveur du libre-échange. La décennie des années 80 va aussi connaître la révolution des marchés financiers, soutenue par les progrès majeurs dans l'informatique et les télécommunications et par les déréglementations massives. Va se créer un réseau mondial interconnecté de places financières dans le monde entier, où l'argent circule librement. Ces marchés financiers vont exploser en puissance. Ils vont financer massivement les multinationales dont la taille et le nombre va exploser en conséquence. Ces multinationales vont développer leurs activités dans le monde entier dans les années 80-90. Elles vont donc provoquer la montée en puissance de certains pays en développement qu'on appellera les pays émergents. Bref, c'est tout le mécanisme de la mondialisation qui se met en place à la faveur de cette révolution néolibérale.
Ouais.
En Europe, on assiste dans les années 80 à la transformation de la communauté économique européenne en Union européenne.
Ok.
Alors, c'est pas qu'un changement de nom, c'est un changement de philosophie. C'est le grand projet du marché unique qui va placer la concurrence libre et non faussée comme principe désormais prioritaire sur tous les autres. Et l'Union européenne, France en tête, va participer activement à mettre en place la révolution financière mondiale. Voilà, c'est comme ça que s'est installé et a installé sa domination, que le régime néolibéral a installé sa domination. Pour synthétiser tout ça, on pourrait dire la chose suivante. Alors que le principe de la philosophie libérale consistait à limiter le plus possible l'intervention de l'État, en gros, l'État doit être présent dans le domaine de la police, la justice et l'armée, c'est la philosophie libérale, et consistait à être très strict sur les libertés politiques, la philosophie libérale consiste à dire les libertés politiques sont prioritaires. D'accord. Eh bien, pour les néolibéraux, au contraire, eh bien, on n'hésite pas à utiliser massivement l'État pour contraindre ces populations à accepter un recul de l'État-providence et à accepter une éventuelle mise en second, en termes de priorité, des libertés démocratiques sur la liberté de marché.
Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la crise économique c'est une espèce de monstre qu'on nous ressort régulièrement. Attention, on va être dans une crise économique. J'ai l'impression que c'est quelque chose que les gouvernements nous disent attention si il y a un effort.
Alors oui, ça peut être un argument bien sûr pour faire taire les gens qui réclament ceci ou cela. Les crises économiques montrent aussi en fait que le système économique est géré tant bien que mal par les puissances politiques. C'est une espèce de monstre difficile à gérer, en quelque sorte. Hein. Ouais. C'est comme une sorte d'animal sauvage qu'on n'arrive jamais vraiment à dompter, le système économique. Donc on est toujours en crise, on est toujours en déséquilibre en permanence. Autre différence importante entre libéralisme et néolibéralisme, les libéraux considèrent que les entreprises en situation de domination de marché, d'entreprises trop puissantes, peuvent être un frein à la libre concurrence, tandis que les néolibéraux s'accommodent sans trop de problèmes de la domination des multinationales. Ça fait aussi une différence notable. Et nous voilà, Mathieu, arrivés dans la décennie 2010-2020.
Ok.
Voilà, ça y est, on y est.
Hier.
Et à partir de là, je vais utiliser un livre qui s'appelle « La finance autoritaire vers la fin du néolibéralisme » qui a été écrit par Marlène Binquet et Théo Bourgeron, c'est-à-dire une spécialiste de sciences politiques et un sociologue, pour décrire un petit peu l'avènement de ce nouveau régime, le régime libertarien autoritaire. Alors, pour comprendre son avènement, en fait, on va partir d'un événement. Trop drôle. L'événement, c'est quoi ? C'est le Brexit.
D'accord.
Les Anglais, vous le savez, décident du Brexit à la surprise générale en 2016. On a coutume de penser, Mathieu, que la City de Londres, la City, c'est la plus grande place financière mondiale à égalité avec New York. D'accord ? Donc c'est les marchés financiers. On a coutume de croire que la City, à Londres, a combattu le Brexit, était pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Et c'est vrai, mais ce n'est que partiellement vrai. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est que ce n'est pas totalement vrai. Alors pour comprendre ça, il va falloir qu'on considère qu'il existe deux familles d'acteurs différentes dans le monde de la finance. Il y a une famille classique qui soutenait l'Union européenne et qui était contre le Brexit, c'est la famille dans les marchés financiers qui soutient le régime classique néolibéral. Et il y a une autre famille plus récente, moins connue, qui elle va être le pilier du Brexit et le pilier de l'avènement du régime libertarien autoritaire. Alors, rentrons dans le détail. La première famille anti-Brexit, c'est les grandes banques internationales, notamment les banques d'affaires américaines, mais aussi les grandes banques européennes, les grandes banques japonaises, américaines, etc. etc. Elles ont intérêt principalement à ce que... elles avaient intérêt, parce que c'est raté, que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, parce qu'en fait, c'était une tête de pont pour faire du business dans l'Union européenne. On peut rajouter des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des fonds d'investissement souverains. Tout ça, c'est les soutiens de ce que les auteurs de l'ouvrage que je mettrai en lien dans le podcast appelaient la première financiarisation. Oui, mais il existe une deuxième famille dans les marchés financiers qui était pour le Brexit et qui a largement financé les campagnes pour le Brexit. Cette deuxième famille est constituée des hedge funds. Qu'est-ce que c'est les hedge funds ? Ce sont les fonds d'investissement spéculatifs.
D'accord.
Et des sociétés de capital investissement qui, pareil, investissent dans des sociétés avec du potentiel de développement fort, mais plus de risques. Il faut savoir que ces deux catégories de sociétés ont financé les hedge funds, ont financé le Brexit, la campagne pour le Brexit à 90%, c'est-à-dire 90% de leurs dons ont été vers la campagne pour le Brexit et seulement 10% vers la campagne pour le Remain. Et société de capital investissement, c'est 70% pour le Brexit. Ah oui. Alors, en quoi ils se différencient des grandes banques d'affaires, des grandes banques, etc. Eh bien, en fait, déjà, c'est des sociétés de plus petite taille qui sont très souvent détenues par des milliardaires. Tiens, on en reparlera des milliardaires. Elles gagnent de l'argent, ces entreprises, ces hedge funds et ces sociétés de capital investissement, je dirais en prenant des risques. Fondamentalement, leur idée, c'est de prendre des risques en jouant sur les marges de la finance, des marchés financiers, en spéculant en quelque sorte. Pour faire ça, pour réussir, pour gagner leur vie, bien gagner leur vie, elles ont besoin d'un contexte le plus déréglementé possible.
C'est-à-dire ?
Le moins de réglementation possible de leurs petites affaires.
Pour qu'ils puissent faire le plus de choses, être libres et qu'on les...
Sans être bloqués par des règlements restrictifs. Or, il faut savoir qu'après le krach de 2008, il y a eu un mouvement de re-réglementation des marchés financiers mené par les États-Unis et par l'Union européenne. Et ça, c'est ça dont essayent de se débarrasser les hedge funds et les sociétés de capital investissement en choisissant de soutenir le Brexit. D'accord. L'idée, quelque part, de ces acteurs du Brexit, en quelque sorte, ces acteurs financiers, c'est espérer la création d'un Royaume-Uni complètement déréglementé, une sorte de Singapour européen. Un Singapour offshore européen qui serait pile entre l'Europe et les États-Unis. C'est un peu leur rêve. Ouais. Voilà, en quelque sorte. Alors là, j'ai juste commencé à décrire un peu tout ça. Et on va s'arrêter là pour cette deuxième partie, avec une petite conclusion. Le Brexit, sans que personne ne le remarque, a signé la première grande victoire politique du camp libertarien autoritaire. Il nous reste, Mathieu, pour la troisième chronique, à présenter la philosophie de ce camp libertarien autoritaire, présenter leurs ambitions plus en détail, et présenter les acteurs qui le soutiennent. Ce sera ce qu'on fera la semaine prochaine, Mathieu.
Très bien. Eh ben, le rendez-vous est donné et le suspense est à son comble. Merci beaucoup.
Exactement. À plus.
À tout bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah, il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve demain à 12h12 pour un nouveau numéro. Et on se quitte en musique. On écoute les Negmarons avec La Monnaie.
C'est Neg Marron qui vient vous parler. Non, dis-moi qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Dis-moi qui a dit que l'on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais laisse-moi rire. Beaucoup de gens osent dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Que de l'amour et de l'eau fraîche suffit pour égayer leur cœur. À ces gens-là, je leur réponds de se réveiller car il est l'heure. Tout le monde sait que sans argent, tu subis le pire des malheurs. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, comme ça, on ne peut rien y faire. Nous vivons dans une société où l'argent est roi. Et dans ce pays, si t'as pas de caillasse, c'est comme si tu n'existais pas. Voilà pourquoi certaines personnes sont prêtes à faire n'importe quoi pour obtenir quelques bouts de feuilles que l'on appelle genre A. Certaines donnent leurs fesses pour avoir quelques pièces. D'autres font la mendicité pendant plusieurs heures d'affilée pour qu'à la fin de la journée, ils puissent acheter de quoi manger. D'autres préfèrent aller pétard ou aller faire des cages brassées. Soit ça, ou soit devenir clochard. C'est soit ça, ou soit devenir clochard. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Benji, prends le Mikey, madame Mikey, madame Inno. Je ne viens pas gaulerie, seulement DJ. Être à lui parler de ce fléau qu'on appelle la monnaie, cette chose pourrie. Les esprits, puis petit à petit, voilà que la déprime sévit sans répit. Mais dit, pas de panique, même si la situation est critique. Pas de madame mathématique, si t'as pas de patrick, tout s'explique. L'argent a pris le monopole dans la société. Plus personne ne peut l'arrêter, plus personne ne peut le contrôler. Plus moyen de survivre, si tu n'as plus de fric, ta vie est en jeu, tu es pris de panique.
En effet, c'est la panique, c'est dans ton porte-monnaie. Tu n'as plus de fric, tu ne peux plus satisfaire tes envies. Pour toi la vie est finie. Tire-toi une balle dans le crâne et arrache-toi au paradis. Wouh, arrache-toi au paradis. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire.
L'argent est partout, à tous les coins de rue, dans tous les esprits. Mais dans les poches, y'a rien. De crise monétaire de nos jours par les politiciens. Certains sont corrompus, d'autres deal avec le malin. L'argent se fait si rare que dans le ghetto des gens meurent de faim. La jeunesse est marginalisée pour s'en procurer tout est bien. Beaucoup font du business pour subvenir à leurs besoins. Faut pas leur en vouloir parce que si t'as pas de caillasse, t'es en chien. Tout le monde sait que sans argent tu n'es rien.
Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire.
Mini, madame, dans ta main, ne ferai pas de mal, mais ça ne m'en sort pas en volant et ni en tuant. À partir de ce moment, seulement tu es fier de ton argent. Mais quand sur tes billets reflètent la couleur du sang, soit tu n'es pas intelligent, soit tu n'as pas de sentiment, mais fais preuve de réflexion et change ton comportement.
Oui, fais comme les Neg Marrons qui gagnent leur vie intelligemment. Nous, on ne charge pas pour l'argent, mais de nos jours, rien ne se fait gratuitement. Donc si tu veux nous écouter, paye cash.
T'es content, car dans ce pays, si t'as pas de caillasse,
tu es en chien.
Si t'es pas un escroc, t'es pas businessman,
tu es en chien.
Si t'es pas un lascar,
tu es en chien.
Si t'es pas Neg Marron,
tu es en chien.
Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde. C'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire.